Jean-Philippe Rey, donc bonjour. Nous sommes ici pour parler de votre dernier livre. Ce beau livre, c'était déjà la Révolution 1786-1789. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce sujet? Vous vous étiez déjà illustré dans le monde de l'édition par des livres sur le Consulat et l'Empire. Donc là, vous remontez la chronologie. Pour quelle raison?
Pour plusieurs raisons. La première, c'est l'intérêt pour cette période assez brève, mais à mon avis décisive, sur laquelle le regard n'avait pas été porté spécifiquement pendant très longtemps par les historiens. Et donc, il me semblait qu'il y avait un éclairage peut-être à apporter sur cette période en essayant de la considérer dans son originalité. Et puis, la deuxième raison qui a trait à ce que vous évoquez de ce que j'ai déjà écrit sur l'Empire et le Consulat, c'est qu'il me semble qu'il y a... Il y a un intérêt à... Alors, c'est pas ce que je fais pour cet ouvrage-là, mais ça me permet, moi, de continuer cette réflexion dans ce sens. Il y a un intérêt à étudier la période dans sa continuité, des réformes ou des tentatives de réforme de l'Ancien Régime jusqu'à la mise en place de la France nouvelle, de l'invention de la France, pour reprendre la formule de Thierry Lenz, par Napoléon sous le Consulat. Et donc, ça m'a vraiment intéressé d'aller voir... avant les bouleversements de la décennie révolutionnaire, ce qui finalement était déjà imaginé en termes de nécessité de réforme, en réalité.
D'accord.
Par ces grands serviteurs de l'État que sont les contrôleurs des finances ou les différents ministres.
D'accord. Alors, la chronologie, ça démarre en 1786, comme c'est annoncé en couverture. Pourquoi 1786? Pourquoi pas 1783, par exemple, la fin de la guerre d'Amérique? On pourrait imaginer 87 aussi, puisqu'il y a déjà eu un livre, il y a fort longtemps, intitulé « La pré-révolution française » de Jean Aigret, et qui faisait 1787-1789. Donc pourquoi 1786?
Alors, 1786, c'est plus précisément le 20 août, hein, 1786, parce qu'en effet, à ce moment-là, il me semble qu'il y a cet événement tout à fait décisif, qui est la présentation par Calonne, donc contrôleur général des finances, au roi, de l'état des finances du royaume, et de surtout la présentation d'un plan de réforme dont la nécessité apparaît de plus en plus urgente au contrôleur général des finances Calonne. Et l'accueil favorable que fait à ce plan, même si il y met un certain nombre de conditions ou de réserves, l'accueil favorable que fait à ce plan Louis XVI propulse en quelque sorte la France dans une nouvelle phase et qui est une tentative de ce qu'on peut appeler une révolution royale, donc une réforme de très très grande ampleur, au centre de laquelle il y a une réforme fiscale qui remet en cause l'organisation du royaume par ordre en réalité et qui inaugure une période qui va s'étendre donc évidemment jusqu'à la fin de la décennie révolutionnaire si ce n'est plus et donc voilà, il me semble qu'il y a vraiment un moment de bascule autour de ce mois d'août 86 parce que jusque là Calonne, même s'il avait conscience d'un certain nombre de difficultés, avait choisi une autre voie qui était celle plutôt d'essayer de redonner confiance en l'État par des libéralités, par un recours à des dépenses qui était censé montrer la santé du royaume, un peu ce qu'avait fait Necker avant lui jusqu'au compte-rendu de 81, où finalement il tendait à essayer de démontrer au milieu financier en particulier que le royaume était en forme financièrement. Et puis finalement, cette politique, qui est une politique pour certains d'artifice, pour d'autres d'expédients, cette politique finalement ne porte pas ses fruits, ne suffit plus. Et Calonne se résout à proposer cette fameuse révolution royale. Et il me semble qu'il y a là une rupture tout à fait essentielle à connaître. La date de 87, elle peut s'entendre parce que c'est l'année où s'ouvre l'Assemblée des Notables en tant que telle. Mais le moment où véritablement le pas est franchi, c'est l'été 1786.
D'accord. Quand j'ai reçu votre livre, il m'a immédiatement fait penser à un autre ouvrage qui est sorti il y a deux ou trois ans environ, sous la plume d'un ami d'université de Rennes qui s'appelle Gauthier Aubert, et qui avait fait un ouvrage sur 1709, sur la crise de 1709, parce que il disait, sa conclusion c'était de dire, en 1709 il y avait tous les ingrédients pour une révolution. Il y avait une crise de froidure absolument terrible, il y avait des révoltes, il y en avait notamment eu en 1707, il y avait tous les éléments. Et pourtant, il n'y a pas de révolution, elle va donc éclater pratiquement un siècle plus tard. Le problème, c'est que le roi n'est pas le même. Est-ce que, pour poser la question différemment, est-ce que en 1786, le problème, ce n'est pas finalement Louis XVI, Louis XVI n'est pas Louis XIV, et il n'est pas capable finalement, peut-être, d'affronter une situation politique devenue extrêmement et financière devenue extrêmement complexe. Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que c'est Louis XVI? Est-ce que c'est une crise politique?
Alors, c'est indéniablement cette crise-là a une très très forte dimension politique, et la personnalité de Louis XVI dans un régime tel que celui qu'il dirige fait que son rôle, son impact sur les événements est tout à fait décisif. Et à plusieurs reprises dans l'ouvrage, j'affirme que Louis XVI manque singulièrement de sens politique. Et que, par exemple, il fait preuve de réaction d'autorité, mais un petit peu à contre-temps. Bon, c'est la fameuse séance royale du 19 novembre 1787. Il pousse son ministre pour remonter à une période antérieure à celle de l'ouvrage, Turgot, puis finalement le lâche sur la pression, sans doute, de Maurepas, de la cour, enfin, de la reine aussi, probablement. Au moins pour Calonne, ça joue beaucoup. Donc, on a un facteur Louis XVI qui est absolument évident, me semble-t-il. Mais je crois aussi que la grande différence avec le début du XVIIIe siècle que vous évoquez, c'est que un certain nombre de mutations profondes, économiques et sociales, pour tout dire, n'ont pas encore complètement abouti au début du XVIIIe. La fin du XVIIIe siècle, la mutation vers une économie capitaliste avec un contenu scientifique et technique plus important, évidemment le siècle des Lumières, l'évolution des mentalités et l'état culturel de la France ont considérablement évolué. Et je pense que pour qu'une révolution ait lieu, il faut non seulement le facteur politique que vous évoquez, un certain nombre d'éléments conjoncturels, les mauvaises récoltes, l'augmentation des impôts, les difficultés du commerce, que sais-je, une guerre, mais il faut aussi que des mutations profondes se soient produites pour rendre la révolution possible. Et donc, je pense que à ces deux niveaux, on peut voir effectivement une différence assez claire avec les événements de 1709.
Oui, je suis assez d'accord. Je reviens à mon idée de départ de 1783, de la révolution américaine. Quelle est la place de la révolution américaine du point de vue de l'endettement, du point de vue aussi de l'évolution des idées? Et est-ce que vous croyez à ce vieux thème? Je dis vieux parce que il a été lancé en 1955 par un historien américain qui s'appelle Robert Palmer, puis repris par Jacques Gottschall, d'une révolution qui serait atlantique.
Alors, je ne sais pas si la formule, enfin, évidemment, l'historiographie, avance par ce type de formule, de travaux qui marque un changement dans la façon d'envisager les choses. Là, il y a clairement un décentrement qui, en France, est plus ou moins bien passé. La Révolution atlantique, ça mettait à une autre place la Révolution française. Donc, évidemment, il y avait des enjeux de cet ordre-là sur lesquels je ne me risquerais pas aujourd'hui. Mais je crois qu'il est quand même indéniable, enfin, tout le monde l'admet de toute façon, qu'il y a une vague de révolution qui touche l'ensemble du monde occidental, hormis l'Angleterre, dans la deuxième moitié, enfin la fin du XVIIIe siècle, la deuxième moitié du XVIIIe et la fin du XVIIIe. Donc il y a évidemment quelque chose de cet ordre-là, mais je pense que s'il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est parce que justement il y a ces mutations qui se produisent, ces mutations du capitalisme, de la structure économique et sociale profonde et qui touche l'ensemble des pays à ce moment-là de manière relativement simultanée. Et donc les différentes révolutions ou les différents bouleversements que l'on constate aux provinces unies, aux États-Unis ou en France, finalement sont en partie des manières dont les sociétés, les économies et les systèmes politiques, évidemment, s'adaptent à ces mutations profondes. Pour ce qui est de l'influence directe de la Révolution américaine, je dirais qu'elle est évidemment de deux ordres. La première, c'est celle que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'elle fait exploser le déficit et l'endettement. Et qu'un homme comme Vergennes, par exemple, avait bien poussé à ce que cette guerre ait lieu, alors qu'un autre comme Turgot réclamait beaucoup plus de modération parce que la banqueroute est pointée son nez et était la menace immédiatement suivante. Donc il y a eu un très fort débat autour du roi sur la possibilité pour le royaume d'entrer dans cette guerre américaine du côté des colonies et des insurgents. Donc il y a ce problème financier, et là ça a une influence, à mon avis c'est l'influence capitale, parce que c'est celle qui plonge le royaume dans un abîme de difficultés sur le plan financier et économique. Et puis, il y a l'influence qui est, de mon point de vue, plus difficile à mesurer, qui est l'influence sur les idées, sur l'influence sur les représentations. Parce que finalement, si certaines têtes reviennent d'Amérique, je pense évidemment à Lafayette, par exemple, tout emplie des idées nouvelles qu'incarne la Révolution aux États-Unis, en fait, les deux mouvements révolutionnaires sont assez différents. Là où la Révolution américaine vise plutôt à donner, à constituer une nation qui est déjà libre, ça c'est l'idée de Tocqueville, la Révolution française, elle tend plutôt à rendre libre une société qui met en cause le trop grand pouvoir de l'État. Donc on s'aperçoit très vite que finalement les deux phénomènes sont beaucoup plus différents qu'il n'y paraît. Et donc c'est une influence diffuse, c'est une influence un peu d'atmosphère qu'exerce l'exemple américain sur la situation française, me semble-t-il.
D'accord. Pour revenir à l'aspect financier, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement un bilan financier de la France en 1788, nous donner une idée d'un budget de la France, même s'il n'y a pas de budget pour en parler, même s'il y a eu des recompositions qui ont été tentées par les historiens. Et dans ce budget, quel est le poids des dépenses de la cour qui est souvent pointé du doigt par l'opinion, par la presse en particulier?
Alors, sur cette question-là, on a évidemment, on avance par approximation et par hypothèse. En réalité, ce que on connaît avec de plus en plus de précision, y compris, alors, j'allais dire les contemporains, mais les contemporains avec un certain décalage, c'est la hauteur du déficit. Ce déficit, donc, Calonne nous présente un montant évalué autour de 100 millions, un peu plus de 100 millions de livres, lors de sa présentation de son projet au roi à l'été 86. Il est, puisque vous parlez de l'année 88, il est, selon le compte-rendu de Brienne en mars 88, il est de 160 millions, enfin, il est un peu supérieur à 160 millions. Donc, on a déjà cette envolée-là. Si on veut mettre les choses un petit peu en place, on s'aperçoit que la charge de la dette équivaut à peu près à... le service de la dette, plus exactement, équivaut à peu près à la moitié des revenus du royaume en 1789. Donc on s'aperçoit que on a un budget donc qui est de quelques centaines de milliers de millions pardon de livres qui est très largement grévé par le déficit, par l'obligation de payer des intérêts, pardon, et puis effectivement par les dépenses de la cour. Les dépenses de la cour sous l'Ancien Régime, enfin du moins et notamment à cette période-là, sont des dépenses qui sont difficiles à contrôler et qui sont, si je reprends le terme du titre d'un ouvrage de Benoît Carré, me semble-t-il, distribuer l'argent du roi. Hein, c'est quelque chose qui est une des prérogatives du monarque et qui est difficile véritablement pour les parlements, enfin pour les différentes institutions à contrôler. Et c'est là qu'effectivement le bât va blesser, puisque dès lors qu'on va vouloir faire des économies sur ce train de la monarchie, je pense à la politique de Louis-Louis de Brienne par exemple, qui est un de ceux qui opère la plus grande contraction des dépenses au début de son ministère. Je crois qu'il arrive à une économie de l'ordre de 3 millions à peu près de livres sur la totalité du budget, ce qui est quand même relativement peu, moins d'1%. En réalité, dès lors qu'on veut se livrer à ces plans d'économie, on se heurte évidemment à tout un tas de résistances.
Malesherbes, l'ancien responsable de la librairie, Malesherbes, vous en parlez d'ailleurs dans l'ouvrage, signalait le rôle joué par l'opinion. Alors l'opinion, en fait, elle a pris de l'importance, c'est pas un phénomène nouveau, elle prend de l'importance à chaque fois qu'il y a une crise, on l'avait vu au moment de la Ligue à la fin du XVIe siècle, on l'avait vu durant la Fronde, donc durant les grandes crises de la monarchie. Quel est, dans les années 1780, le rôle joué par l'opinion? Quel est le rôle de la presse, le rôle des journaux qui se multiplient, de ces journaux qui sont très différents des journaux actuels, ces petites feuilles comme l'Ami du Peuple de Marat, par exemple, qu'on connaît, comme le journal de Camille Desmoulins? Quel est leur rôle dans la montée du mécontentement à la veille de 1789?
Alors la question de l'opinion, effectivement, c'est vraiment une des questions cruciales du moment. Il y a l'apparition d'un véritable espace public au sens où Habermas, par exemple, l'a défini, c'est-à-dire un espace à la fois d'échanges intellectuels et politiques, qui est à la fois autonome et critique vis-à-vis de l'État. Donc cette apparition de l'espace public dans les années 1780, se fait de plus en plus dynamique sous le poids d'un certain nombre de choses. Alors d'abord, il y a des événements qui provoquent cette passion finalement du politique et du débat. C'est l'évocation que je fais de Barnave, par exemple, qui dit qu'à partir de 87, eh bien, il ne s'occupe plus que de politique. Hein, on a tout un tas de témoignages qui nous montrent qu'effectivement l'opinion s'intéresse. Et elle s'intéresse d'abord parce qu'il y a des événements qui provoquent cet intérêt. Et donc la presse ou les feuilles ou les brochures, finalement, viennent accompagner l'émergence de ces problématiques qui commencent à passionner l'opinion. J'ai tendance à penser que la presse ne provoque pas la prise de conscience, mais que finalement, elle l'accompagne, elle la nourrit et elle l'alimente sans doute. Hein, mais qu'elle ne suffit pas à mettre sur la place publique ces questions. La deuxième chose que l'on peut, me semble-t-il, dire, c'est que il y a dans tous ceux qui rédigent, vous en avez cité quelques-uns, dans ceux qui rédigent ces feuilles, ces pamphlets, ces brochures qui commencent à circuler, il y a toute une population qui est assez bien évoquée par exemple par Danton, qui est une population d'écrivains qui ne sont pas forcément reconnus en tant qu'écrivains, qui ont une qualité de plume, et qu'ils vont finalement mettre au service de formats plus courts, plus brefs, plus incisifs. Et donc, la presse, elle joue aussi ce rôle qui est de permettre à toute une population intellectuelle, à une élite intellectuelle, j'allais dire, de rang un petit peu secondaire, de s'affirmer, de diffuser des idées, et finalement de se faire aussi une place dans cette nouvelle configuration sociopolitique auquel donnent lieu tous ces débats. Et la dernière chose qu'on pourrait évoquer, c'est le fait que beaucoup de ces feuilles, beaucoup de ces pamphlets, beaucoup de ces brochures sont aussi commandées en fait, en réalité. Il y a sans doute une spontanéité dans la manière dont ces journalistes, ces publicistes, etc., s'expriment et envisagent les questions. Mais il y a aussi, incontestablement, une orchestration de la manière dont ces écrits se mettent en marche. On pense évidemment aux travaux autour du duc d'Orléans, enfin voilà, de Laclos, et puis évidemment Mirabeau, enfin pour parler des plus importants d'entre eux, écrivent sur commande et écrivent souvent pour combattre tel ministre ou tel politique au nom de tel concurrent ou de tel autre ambitieux.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est ce que Darnton appelle d'ailleurs les basses lumières ou les Rousseau du ruisseau. Oui, tout à fait, dans son ouvrage sur édition et sédition. Quelle est la place jouée par les lumières, l'influence des lumières, mais alors de la première génération, celle de l'encyclopédie, des grands encyclopédistes, et puis quelle est la place aussi jouée par la franc-maçonnerie?
Alors, sur la place des Lumières, je crois que là, les choses doivent être vues justement. Enfin, un des intérêts de prendre les années 86-89 et de s'arrêter avant que les États généraux ne commencent, me semble-t-il, est de relativiser d'une certaine manière le rôle des Lumières. C'est-à-dire qu'en fait, les Lumières irriguent, les premières Lumières, celles que vous évoquez, irriguent la pensée d'une partie de la noblesse libérale, d'une partie de la bourgeoisie, c'est vrai, mais en fait, les Lumières nourrissent une culture des élites. Et l'opinion publique, qu'on évoquait tout à l'heure, c'est en réalité l'opinion des élites. On est assez loin de ce qu'on appelle l'opinion publique aujourd'hui. C'est même très loin et même parfois opposé à ce que Condorcet appelle l'opinion populaire. Et souvent, les Lumières, les premières Lumières en particulier, ont pensé contre l'opinion populaire, qui est beaucoup plus conservatrice. Et pas besoin pour ça d'évoquer les classes les plus populaires. Hein, la bourgeoisie des villes, ça a été montré, et souvent plus conservatrice qu'on pourrait l'imaginer. Il y a encore un fort niveau de religiosité au sein de la société française, bon, les campagnes en particulier, mais même dans les villes. Et donc, le rôle des Lumières nourrit les conceptions qui émergent au sein de l'élite politique, qu'elles soient celles de la noblesse plus ou moins libérale ou celles de la grande bourgeoisie. Mais en réalité, elle a un impact qui est, somme toute, limité à des classes, à des catégories qui sont assez restreintes. Alors, c'est vrai que la plupart des bibliothèques, des magistrats, par exemple, sur lesquels a travaillé Clarisse Coulon pour le Parlement du Dauphiné, ou d'un personnage comme Barnave que j'évoquais tout à l'heure, de ceux qui vont donner les premières grandes figures de la Révolution française, les bibliothèques regorgent de ces textes de Montesquieu, évidemment de Rousseau, de Voltaire, etc. Mais leur rôle est quand même limité à l'impact qu'elles ont sur les élites, d'une certaine manière. Quant à la franc-maçonnerie, le grand intérêt qu'a eu la maçonnerie, ça a été sans doute de faire se rencontrer des hommes issus de catégories sociales différentes autour d'idéaux communs. Et c'est vrai que les loges sont souvent l'occasion, à Paris en particulier, hein, parce qu'il ne faut pas grossir l'importance de la maçonnerie dans les villes de province, qui restent quand même assez limitées, mais les loges permettent de mettre en lien des nobles, des roturiers, des négociants, des banquiers, et sans doute de commencer à fédérer autour de conceptions communes, d'idées politiques, mais aussi de manières de vivre et d'être communes, une sociabilité commune, des élites qui, sans cela, se seraient sans doute bien moins fréquentées et auraient été bien moins familières les unes des autres, en réalité.
Vous avez déjà parlé un petit peu, on a déjà abordé cela, des ministres. Vous avez beaucoup parlé de Calonne déjà. Alors, quelle est la capacité des ministres à réformer, en commençant d'ailleurs par Turgot, même si c'est tout à fait le début du règne, même si Turgot, le roi s'en est débarrassé assez rapidement, mais Turgot était une figure des Lumières incontestablement qu'on évoquait il y a quelques instants. Quelles sont les capacités de Calonne, éventuellement de Loménie de Brienne, à réformer la monarchie ou pas?
Bien, ma foi, le constat le premier constat à adresser, c'est leur échec à la réformer. Turgot arrive avec des idées qui sont extrêmement précises sur ce qu'il veut faire. Son libéralisme est incontestable, sa volonté de faire le bien au service du bien général, si j'ose dire, est assez incontestable également. je ne pense pas qu'on puisse disputer à Calonne, ni même à Loménie ou à Necker, d'avoir un certain nombre de plans et d'idées assez exactes des réformes à mener, et ni même d'avoir la volonté de les appliquer. En réalité, très vite, il se trouve en butte à un certain nombre de phénomènes qui empêchent la réforme. Parmi ces phénomènes, il me semble qu'il y en a un qui tient effectivement à l'entourage du roi, aux résistances de la cour, aux résistances d'un certain nombre d'autres ministres. J'ai évoqué le rôle de Maurepas, par exemple, dans l'échec de Turgot, et puis dans l'échec de Necker, par exemple, en 1781. C'est aussi... bon, là, on a un certain nombre de menées de la cour ou de ministres, donc comme Maurepas, qui peuvent jouer. Et donc, il y a une frilosité, en quelque sorte, dans l'entourage du roi, et puis des luttes de coterie ou d'influence qui font que les ministres sont quand même assez rapidement empêchés d'agir. Je pense qu'il y a une deuxième raison, qui est peut-être... plus profonde, même si elle n'est pas aussi marquée, c'est le fait que les réformes qui sont proposées sont souvent des réformes qui sont, pour différentes raisons, mal comprises parce que mal expliquées. Et en fait, il y a aussi un hiatus entre l'ambition et la volonté des ministres et la manière dont les réformes sont ressenties en réalité. Je pense au libéralisme de Turgot ou même de Brienne, d'ailleurs, plus tard. Mais disons Turgot, par exemple, au moment de la guerre des farines. Et ce libéralisme-là, où on a des ministres qui, finalement, considèrent que pour lutter contre l'inflation et contre la rareté d'un certain nombre de biens, il faut libérer le commerce et la circulation des grains, par exemple. Et très vite, ça provoque des dysfonctionnements locaux qui sont très très mal perçus par la population et même une partie de la population, des artisans, des commerçants localement, et ça donne lieu à des émeutes. Et donc il me semble qu'il y a une sorte d'incompréhension parfois des différents acteurs auxquels ces réformes sur lesquels ces réformes ont des conséquences et qui empêchent finalement le projet d'aboutir. Et là, il y a de ce point de vue-là, un enseignement pour notre époque également. C'est-à-dire qu'une bonne réforme est aussi une réforme qui est préparée, qui est expliquée et qui est admise en réalité.
Oui, certainement. Il y a une question qui me tient à cœur, parce qu'il se trouve que j'y ai pas mal travaillé, fut un temps. C'est le problème des parlementaires, et vous en parlez dans le livre, de la révolte des parlementaires. Mais cette révolte, en réalité, elle part de très très loin. Elle court durant tout le siècle, mais on peut même y trouver des racines au XVIIe, voire au XVIe siècle, puisqu'en réalité, les parlementaires de la veille de la Révolution utilisent des textes qui sont extrêmement anciens. Alors, comment s'explique cette révolte des magistrats qui ont une capacité politique n'est-ce qu'une révolte de privilégiés ou est-ce autre chose?
C'est autre chose. C'est aussi autre chose.
Je suis d'accord.
C'est-à-dire, je pense que les parlementaires, évidemment, comme le dit à un moment donné Malesherbes, sont ceux qui parlent parce que ce sont les seuls qui peuvent parler. Donc, les parlements vont devenir la chambre d'écho de tout un tas de mécontentements. Il n'y a pas de système représentatif et la seule institution qui peut tenir lieu d'institution représentative, c'est le parlement. Enfin, ce sont les parlements. Donc, il y a cette première chose qui fait que les parlementaires vont se trouver très rapidement sommés, en quelque sorte, de porter un certain nombre de voix et parfois, sans même qu'il y ait de calcul de leur part, ils vont porter des voix qui sont contestataires pour des motifs différents, qui peuvent être des... pour aller très vite, en jouant avec un peu les mots, au nom des libertés et au nom de la liberté, c'est-à-dire à la fois au nom d'une vision traditionnelle de la monarchie où les corps intermédiaires et donc en particulier la noblesse, Robin en l'occurrence, doit être en mesure de limiter le pouvoir du roi, et puis ils vont être porteurs d'une autre ambition au nom de la liberté, c'est-à-dire d'une conception de la monarchie où le pouvoir du roi doit être équilibré finalement par une institution d'un autre type qui est représentative autrement représentatives de la nation, disons. Hein, voilà. Et donc, je pense que les parlementaires vont se trouver très rapidement en charge de porter ces deux ambitions différentes et contradictoires qui vont d'ailleurs comment dire, entrer en tension inévitablement hein, lors de l'année, enfin, à la fin de l'année 87 et au cours de l'année 88. Donc ça, c'est pour la première chose. Et puis pour la deuxième, je pense que effectivement, dans cette optique-là, ils deviennent le lieu où la réaction à la Révolution royale, la réaction aristocratique à la Révolution royale se produit et se forge. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, ils peuvent apparaître comme l'institution qui défend les privilèges et qui défend les privilégiés. Mais ils le font aussi au nom d'une conception de la monarchie qui est une conception tout à fait particulière et ancienne de la monarchie. Conception d'ailleurs à laquelle les rois ont été formés régulièrement. J'ai l'occasion de le dire en quelques lignes hein, dans l'ouvrage, mais la formation même de Louis XVI apprend à Louis XVI que les parlements ont un rôle à jouer dans les équilibres du royaume et leur rétablissement, enfin l'annulation de la réforme Maupeou au début du règne de Louis XVI est à interpréter comme cela, c'est-à-dire qu'en fait les parlements ont historiquement, traditionnellement un rôle à jouer de corps intermédiaire qui offre au roi une certaine limite à ses prérogatives et qui veille à ce que la loi fondamentale du royaume, pour aller vite, soit convenablement respectée par le roi. Donc je pense qu'il ne faut pas réduire la révolte parlementaire du 18e et notamment de la fin du 18e sous Louis XVI à une sorte de crispation à courte vue de la part d'une catégorie aristocratique qui est menacée dans ses prérogatives, mais qu'il faut plutôt voir dans la réaction parlementaire également la volonté d'un certain nombre de nobles de militer pour une conception plus traditionnelle de la monarchie que celle vers laquelle tendent les monarques au 18e, qui est une monarchie rationalisée, administrative, de plus en plus uniformisatrice et de plus en plus centralisatrice.
Alors nous avons parlé des élites, on aurait pu envisager aussi la noblesse libérale. Parlons un petit peu, puisque nous approchons du dénouement, des révoltes de l'année 89, du début de l'année 89. Par exemple, bon, il y en a un certain nombre, il y en a à Paris, il y en a à Aix-en-Provence, il y a l'histoire de la manufacture Réveillon à Paris au mois d'avril 1789. Quel est le rôle de ces révoltes provoquées par les difficultés économiques, par le chômage à Paris qui touche particulièrement l'industrie du luxe? Quel est le rôle de ces révoltes dans le déclenchement et en particulier dans les événements des mois de juillet et d'août 1789? Et est-ce qu'il y a une montée de ces phénomènes de mécontentement populaire, alors que pendant très longtemps, on avait cru que les révoltes, c'était le XVIIe siècle, et on s'est aperçu, à la suite du livre de Jean Nicolas, qu'en fait, il y avait aussi un grand nombre de révoltes durant le siècle des Lumières.
Là, on touche vraiment à un point qui, à mon avis, est essentiel et qui peut-être marque la différence entre la période sur laquelle j'ai véritablement travaillé, 86-89, et la période qui suit. C'est-à-dire que finalement, ces révoltes, effectivement très très bien étudiées par Jean-Nicolas, qui a complètement modifié notre regard sur ces révoltes pour la dernière période, je crois qu'il en dénombre 350 à l'échelle du royaume pour les quatre premiers mois de 89. Ces révoltes, en réalité, elles changent de nature, c'est-à-dire que progressivement, on les voit se politiser. On a nié finalement. Et peut-être, je ne suis pas spécialiste du 17e, mais justement, peut-être qu'il y a une réflexion à mener a posteriori sur ces révoltes du 17e. Mais en fait, on a nié pendant longtemps le contenu politique des révoltes frumentaires, par exemple, et qui se multiplient aussi au 18e siècle. Or, on constate que finalement, ces révoltes, progressivement, elles ont un contenu qui est de plus en plus politique. Les procès antiseigneuriaux, pour parler de la période avant 89, les procès, les manifestations antiseigneuriales, pardon, qui se multiplie dans les campagnes et qui se termine de plus en plus par des procès où on discute l'institution seigneuriale en elle-même et donc l'ordre socio-économique politique traditionnel. Montre, s'il en était besoin, que véritablement, il y a une politisation de ces, ces révoltes. Pour parler des révoltes de 87 à Paris, par exemple, ou à la fin de cette vague de violence qui viennent des apprentis, des compagnons, rejoints parfois par des étudiants, on brûle en effigie Calonne ou la duchesse de Polignac, par exemple. On voit bien qu'il y a une politisation croissante. Et donc, c'est tout à fait net, me semblant-il, en 89. Et la deuxième dimension qui est très importante, c'est que ces émeutes, petit à petit, d'abord, elles ont de plus en plus trait au champ de la révolte. Elles sont de moins en moins à considérer comme un événement limité, dans un espace limité, dans une durée courte de quelques jours. Et elles ont de plus en plus trait au champ de la révolte. Et elles introduisent dans les événements qui se déroulent, disons à partir de l'été 88 jusqu'au printemps 89, un élément nouveau qui est la dimension proprement physique du rapport de force. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque les notables grenoblois se réunissent le 14 juin, eh bien, 88, pardon, eh bien, quelques jours plus tard, il y a, ou quelques jours avant et quelques jours plus tard, il y a des émeutes qui se déroulent dans la ville. Donc il y a petit à petit une dialectique qui s'instaure entre les revendications des élites, les revendications qui peuvent être émises par la noblesse libérale, la bourgeoisie, etc. Les élites, disons, cultivées, formées, politisées, etc. Et les mouvements populaires qui ajoutent un élément qui est tout à fait décisif, me semble-t-il, dans la manière dont les autorités sont obligées de tenir compte de ce qui se passe. Et je ne pense pas, par exemple, que sans la journée des tuiles le 7 juin 88 à Grenoble, je ne pense pas que la réception par le roi de l'annonce d'une réunion des trois ordres le 14 juin à l'hôtel de ville de Grenoble aurait été la même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une pression plus grande. Et l'autorité royale, clairement, dans sa capacité à tenir l'ordre, au sens de tenir la rue, est véritablement mise en défaut à partir de la fin 88 et le début de 89.
Que se passe-t-il ? On n'en a pas parlé, mais vous venez d'y faire allusion. Vous avez fait allusion aussi à la très très belle thèse de Clarisse Coulon, qui était une amie à moi, qui a travaillé sur les parlementaires du Dauphiné. Mais que se passe-t-il donc en Dauphiné ? Justement au moment de la journée des tuiles et des événements qui suivent. Il y a un contexte particulier et puis on voit sortir aussi un personnel politique qui vient justement du Dauphiné. Vous avez parlé de Barnave, on peut parler de Mounier aussi. Que se passe-t-il donc en Dauphiné ?
Alors en Dauphiné, il me semble que ce qui se passe, c'est que d'abord on a un tiers-État qui est très actif et qui est notamment par, je parlais de la rencontre du 14 juin, donc on est une semaine après la journée des tuiles, où Mounier, avocat, joue le premier rôle et apparaît véritablement comme, à partir de ce moment-là, le leader de la révolution en Dauphiné et peut-être même un des leaders sur le plan national, puisque c'est une des grandes figures connues au moment où les États généraux se réunissent. Mais en Dauphiné, il y a très vite aussi une sorte de rencontre heureuse, qui n'aura pas lieu, par exemple, en Bretagne, entre une grande partie de la noblesse libérale, je pense au comte François-Henri de Virieux, par exemple, qui, à cette fameuse réunion du 14 juin, est le co-animateur, si j'ose dire, pour parler en termes modernes, enfin contemporains, de cette journée et de cette volonté de réunir les ordres et d'appeler à une réunion des ordres. C'est-à-dire que très tôt en Dauphiné, le combat est vraiment conçu comme celui de la nécessaire restauration d'une autonomie provinciale, d'une certaine manière, à travers la restauration des États provinciaux, et qui est réclamée par les trois ordres concurremment. Et de ce fait, il me semble que le Dauphiné a cette place tout à fait particulière parce que très vite, on y exprime les choses en termes de droit naturel, en termes de restauration des libertés et en termes de vocation un petit peu universelle du combat que les Dauphinois mènent. Et je crois que là, il y a là quelque chose qui rend les événements dauphinois tout à fait spécifiques à l'échelle du pays.
Je crois que nous avons donné une très bonne image de la richesse de votre livre au public durant cette heure où nous avons devisé ensemble sur donc c'était déjà la Révolution. Vous aviez donc déjà beaucoup écrit sur la période après. Hein. Là, vous écrivez sur les causes de la Révolution. Est-ce que je peux me permettre de vous demander quel sera votre prochain projet et est-ce que vous allez tout simplement relier les deux bouts et donc vous intéresser à la Révolution?
Alors, à la Révolution, peut-être pas en tant que telle. En ce moment, je travaille beaucoup sur un des acteurs de des débuts de la Révolution, qui est Barnave. Antoine Barnave n'a pas de grande biographie française, il en a une grande anglaise, hein, parue récemment, John Hardman. Mais il n'y a pas de grande biographie de Barnave en France, donc je travaille à cette biographie actuellement. Et puis, parmi mes projets les plus fous, j'aimerais effectivement, alors vous parliez de relier les deux bouts, mais effectivement travailler sur une périodisation un peu plus longue qui fasse le pont entre cette... déliquescence de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Régime et la refondation, si on peut dire comme ça, les choses comme ça, du début du 19e siècle. Donc voilà, quelque chose qui irait de Turgot au Grand Consulat, par exemple. Ça serait quelque chose qui me tenterait beaucoup, ça.
Et retrouver les problématiques de Tocqueville, peut-être, des choses comme ça.
Oui, c'est ça. C'est ouais, ça. Ouais. Un peu de cet ordre-là, effectivement.
Oui, d'accord.
Et puis, avec peut-être une perspective plus... j'aimerais beaucoup m'intéresser au personnel, par exemple, qui est quand même d'une compétence technique et, assez époustouflante, que ce soit dans les années 1770-80 et évidemment sous le consulat. Et il y a aussi parmi les... Voilà, une prosopographie, par exemple, de cette période-là, sur ce temps-là, pourrait être intéressante à mener, à conduire.
Oui, ce serait extrêmement intéressant.
Ouais.
Eh bien, Jean-Philippe Pré, je vous remercie. C'était une rencontre pour moi extrêmement agréable que de parler de « C'était déjà la Révolution » et j'espère maintenant que vous aurez de nombreux lecteurs. En tout cas, je recommanderai votre ouvrage à mes étudiants. Merci beaucoup.
Je vous remercie beaucoup, en tout cas. Merci
Bonne
beaucoup.
Journée.